Merci d'être avec nous. On est en osmose, on discute, on se balade, on reçoit des invités. Vous nous retrouvez évidemment sur notre site www.osmose-radio.fr pour les podcasts des émissions que vous entendez. Vous pouvez retrouver des vidéos également sur Facebook, sur Twitter et sur comment ça s'appelle ? Instagram. Je vais y arriver, oui. Bonjour, monsieur Sicard, Philippe.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ma foi, pas si mal que ça, merci.
Dieu est-il avec vous aujourd'hui ?
Écoutez... Il est avec nous, plus ou moins, après...
Il est partout, il paraît.
Il paraît.
En nous, en dehors de nous, partout.
C'est un bon point de départ de considérer que Dieu n'est pas une entité extérieure à nous. Mmh. Tant qu'on le considère extérieur à nous, il est source de conflits. Si on considère qu'il est en nous, chacun le vit au fond de soi, l'expérimente ou expérimente sa réalité au fond de soi... Mmh. Et donc, du coup, il y a une paix qui s'instaure et qui évite les conflits.
D'accord. Pour remettre le contexte à nos auditeurs, là, qu'est-ce qu'ils ont tous les deux à parler comme ça ? On vient, c'est la deuxième émission qu'on fait autour de Dieu, un concept en pleine évolution d'ailleurs. Hein. Mm-hmm, c'est vrai que ça évolue en permanence. Avec Philippe Sicard, qui est conférencier pour la Morque, l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix, et pour l'Université internationale.
Rose-Croix internationale.
Voilà, oui. Rose-Croix internationale. Donc, on va parler de Dieu, mais c'est vrai que...
Oui,
c'est un énorme sujet,
c'est
très compliqué. La dernière fois, on s'était un petit peu quand même arrêté à la partie pratique, les rituels, tout ça. C'est important quand même, d'après vous ?
Alors, oui, bien sûr, parce que si vous voulez, il y a trois notions qu'il faut avoir à l'esprit. La première, c'est la croyance. Mmh. La deuxième, c'est le savoir. Et la troisième, c'est la connaissance. Pour, si on prend l'exemple d'un petit enfant, vous lui dites « touche pas, ça brûle », par exemple, il va vous croire, c'est premier degré. Et puis ensuite, il va voir son petit frère ou un copain toucher et se brûler. Et là, du coup, il va avoir un premier degré d'information sur la réalité de ce à quoi il a cru. Donc il va passer du croyant...
Oui, il va se dire « c'est vrai, ça existe ».
Voilà, c'est vrai, ça existe. Il va passer donc de la croyance au savoir. Il y a d'autres auteurs qui formulent dans le sens inverse, mais bon, peu importe. Derrière les termes, il y a une progression dans la perception.
Mais tout ça, dans la conviction aussi.
Oui, tout à fait. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à la démonstration. Alors non, on n'est pas obligé de se brûler soi-même. Mais si on veut que quelque chose devienne une vérité, ne soit pas remis en question... Il faut en avoir une démonstration. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus supporter que quelqu'un vous dise le contraire. Ou si vous le supportez, en tout cas, ça ne remet pas en question ce que vous avez perçu et que vous avez pu comprendre.
Donc si j'arrive à faire la démonstration d'une chose, je ne veux plus entendre une objection sur cette chose.
Vous les entendrez, les objections, parce qu'il y en aura toujours. Mais en tout cas, ça ne remettra pas en question ce qui est déjà au fond de vous.
Ah oui, c'est sûr que si le feu, ça brûle, que j'ai touché une flamme, vous pouvez me dire ce que vous voulez.
Vous savez que
ça brûle.
Ça brûle.
Oui, voilà,
c'est ça.
Reporter à Dieu, c'est pas évident.
On va prendre un autre exemple, parce que c'est un sujet tellement abstrait. C'est peut-être mieux de multiplier les exemples. Comment vous faites pour démontrer que vous êtes amoureux ? C'est une notion qui est propre à chacun.
J'évite.
Mais il est évident que tous ceux qui sont passés par le même ressenti, la même émotion, les mêmes sensations, le même désir d'être fusionnel avec quelqu'un, tous ceux qui sont passés par là vont ressentir la même chose. Maintenant, faites la démonstration à quelqu'un qui n'a jamais ressenti ça, si ça existe, c'est quasiment impossible, parce que vous ne pouvez pas expliquer quelle est la différence entre... Je parle d'une manière objective, sensitive. Mais disons que comment vous faites pour dire j'aime ma femme, j'aime ma fille, j'aime ma sœur, j'aime ma mère ? C'est toujours un sentiment d'amour, mais c'est jamais le même.
Évidemment.
Et donc, les Rosicruciens, quand ils parlent de Dieu, disent Dieu de notre cœur, Dieu de notre compréhension. Parce qu'on a tous un degré de compréhension différent et Dieu fait partie de ce qui vibre au fond de soi. Et que les religions ont voulu externaliser. Alors, ce n'était pas ça à l'origine. Les courants philosophiques qui ont donné naissance aux religions n'avaient pas ce message-là. Mais pour des raisons qu'on n'a peut-être pas besoin de développer ici, parce que ça va nous entraîner dans des discussions sur les différents courants religieux. Mmh. Mais disons que le fait de mettre l'accent sur un Dieu insaisissable, ça frustre, parce que ça donne naissance au dogme. Et ça prive de cette démonstration dont on vient de parler, de cet accès à la connaissance.
Alors ce qui nous bloque, ce qui bloque beaucoup maintenant au XXIe siècle hein, autour de ce concept de Dieu, c'est de voir que chaque fois qu'on l'utilise... C'est pas forcément pour le bien de l'humanité. Les guerres de religion, on le voit en ce moment, les attentats au nom de Dieu, c'est quand même terrible. Et là, on se dit, oulala,
les religions,
qu'il reste loin de moi, celui-là.
Les religions, alors d'abord, on l'a dit un peu la dernière fois, c'est qu'on a tendance à confondre Dieu et religion.
Oui.
Donc, on a terminé la dernière fois en disant que les religions n'avaient pas le monopole de la spiritualité. Mais ce que je voulais dire, c'est que les religions sont liées au monde temporel. Donc tout ce qui est lié à la matière commence par une phase de naissance, de croissance, d'apogée, de déclin et de mort. Et donc cette loi des cycles, vous la retrouvez par exemple dans la religion chrétienne. Amalric, en faisant le siège de Béziers, disait « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Ça ressemble étrangement à certains attentats et à certains messages qu'on a vus dans des périodes extrêmement récentes. Donc, chaque courant religieux démarrant à une période différente vit ses lois de cycle qui parfois se superposent, parfois se succèdent. Mais donc là, on est dans une logique, je vais dire, temporelle et des cycles liés à la matière. Quand on parle du divin, là, il faut se référer aux paroles du Christ. Tout passera, mais mes paroles resteront. On est là dans les lois fondamentales, les lois de fond, qui font que la notion du divin dépasse toutes ces contingences matérielles.
J'aime bien peut-être l'expression « chacun chez soi et Dieu pour tous ». Comme ça, c'est chacun ça. Non, mais c'est très personnel en vérité, parce que moi, je peux le vivre. Comme vous parliez d'amour et de l'état amoureux de tout à l'heure, chacun le vit différemment.
Oui, mais quand on dit chacun chez soi, Dieu pour tous, ça a une notion égoïste qui est contraire à la notion de fraternité et d'universalité qu'il y a dans la
spiritualité. Oui, ce que je voulais dire, c'est que chacun peut avoir sa propre conception, sa propre relation.
Oui.
Puisqu'il est omnipotent, omniprésent, etc. Et puis, sans obliger l'autre à croire à la même chose que soi.
Oui, tout à fait.
Le problème, c'est de sortir de la croyance et que ça devienne un fait. On n'y est pas arrivé, là.
Non, on n'y est pas arrivé. Je vais prendre là aussi un exemple. Dans l'évolution dont on a parlé la dernière fois, il y a d'autres aspects qu'on n'a pas abordés. Par exemple, celui du culte des ancêtres, mais celui de l'animisme aussi. Quand on parle... à un ancêtre devant un temple oriental ou devant une statue en Afrique.
Ou un petit hôtel, comme on fait pendant certaines religions.
Oui, par exemple. Donc, on est là devant, plus ou moins consciemment, des gens qui sont persuadés qu'il y a une vie après la vie et que tout ne s'arrête pas à la dimension physique ou avec la dimension physique. Si on regarde des sépultures préhistoriques, il y avait des corps qu'on a retrouvés accompagnés d'outils. Et donc, depuis la nuit des temps, les hommes sont persuadés que le défunt va revenir, peut-être dans ce monde, peut-être d'une autre façon, mais en tout cas, il y a une continuité. Mais cette notion qui est plus ou moins religieuse, elle s'expérimente. Et par exemple, dans l'ordre de la Rose-Croix, il y a un degré, le septième, qui parle de la dimension psychique de l'être et qui permet de faire un certain nombre d'expériences pour appréhender et vivre avec cette dimension psychique qui fait le lien entre le spirituel et le physique. Mmh. Et donc, en faisant ce lien, on appréhende la réalité de l'âme qui est au fond de soi. Et l'âme personnalité, donc l'âme de chacun, est un démembrement de l'âme universelle. Et cette âme universelle est déjà très proche de la notion de Dieu.
Un grand tout dont nous serions des petites particules.
Alors là, c'est une parcelle sur un plan spirituel, comme sur un plan physique. On le voit bien dès que on regarde une sépulture. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si vous regardez
une tombe, vous voulez dire
une tombe,
des sigils, un tel.
Non, mais vous, si bon, moi j'ai eu l'occasion d'assister à l'ouverture d'un caveau et de l'ouverture du cercueil dans un caveau. Ben vous voyez le tas de poussière qui reste, et vous voyez bien que le corps physique revient à la poussière, revient à la terre mère, qui a été un élément de croyance à une époque.
On voit surtout, par exemple, au Père Lachaise, la tombe de Jim Morrison, des Doors, où les gens versent du vin.
Oui,
du whisky, une cigarette. Là, c'est assez intéressant parce qu'on se dit...
C'est une des plus fleuries du Père Lachaise aussi.
Hein. Et puis, il n'y a pas que des fleurs, je vous assure qu'il y a du vin ou des choses comme ça.
J'y suis allé il y a longtemps, mais j'y suis allé.
Donc, il y a un partage quand même qui se fait.
Oui, mais ça révèle bien quand même qu'il y a une notion de continuité, plus ou moins inconsciente, mais une notion de continuité.
Et Dieu dans tout ça? C'est lui qui créerait ça?
Le divin... a une dimension duale. Il y a une dimension spirituelle, il y a l'essence. À partir de l'essence naît la substance. Et l'évolution de la substance arrive à son apogée avec l'être humain. L'être humain est l'individu ou la création, l'élément de la création qui a conscience de ce qu'il est, d'où il vient et où il va. Et à partir du moment où il s'interroge sur où il va, il s'interroge sur l'au-delà, sur cette dimension psychique dont on vient de parler, la dimension spirituelle dont on vient de parler. Et essayer de retrouver l'unité primordiale, c'est l'objectif du mystique.
Oui, bah, on aimerait bien tous, mais là, plus ça va, plus on a l'impression qu'on est divisé, oui, chacun parler... devant son écran, etc. Ouais.
Non, mais ne parlons pas des autres.
Chacun... J'ai dit on est, donc nous sommes. Je m'inclus dans ce truc.
Oui. Mais quand, si vous voulez... Vous parlez de religion avec quelqu'un qui...
Oui, je parlais des téléphones et tout ça, donc c'est une forme de religion aussi, puisqu'on est tous très liés à nos écrans.
On considère souvent que les religions cultivent la peur. Et c'est assez facile de le dire sous forme de généralité. Mais est-ce que nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, nous avons peur de la mort? C'est la question qu'il faut se poser. C'est donc ne pas fournir une réponse collective, mais... réfléchir au fond de soi sur ce que l'on croit être la vérité. Et ensuite, faire grandir cette perception, et on peut le faire grandir par l'étude des réflexions qu'ont menées les autres. Et donc, comme je disais aussi la dernière fois, au sein de l'Ordre de la Rose-Croix, il y a un enseignement. C'est une des rares organisations qui a un enseignement, qui est l'héritage de maîtres du passé, d'un certain nombre de sages qui nous ont précédés. Mais c'est aussi un ensemble d'expériences qui accompagnent cet enseignement. Et ces expériences permettent de découvrir la réalité de cette autre dimension. Donc Dieu, c'est l'essence, c'est la substance. Il ne faut pas bannir la substance parce qu'elle est le support de l'essence. Donc tout ce qui peut être sacrifice humain, évidemment, c'est de la bêtise. Tout ce qui peut être torture d'une façon ou d'une autre, les flagellations, autoflagellations qu'il y a pu y avoir dans certaines cultures, c'est évidemment une très mauvaise idée puisqu'on détériore ce qui est le support à l'expérience de la vie et de l'expérience que doit mener l'âme dans un corps.
C'était peut-être utile à une certaine époque aussi, puisque tout est en évolution. Si ça existait à ce moment-là et que ce Dieu dont nous parlons est si puissant, c'est peut-être lui qui l'a voulu finalement.
Je pense qu'il y a des aiguillages, qui mènent à rien, et puis il y a des aiguillages qui amènent très loin. D'accord. Je pense que c'est un aiguillage qui ne menait pas à grand-chose.
Concrètement parlant, pour revenir aux enseignements de l'Ordre de la Rose-Croix, à Morc, Dieu, quelle est sa part dans tout ça? Il y a des thèmes spéciaux, ou alors c'est un petit peu distillé dans chaque enseignement?
Alors, donc, les enseignements de l'Ordre sont organisés en 12 degrés. Et les degrés commencent par l'étude de la matière, puis progressent vers la place de l'homme dans l'univers, dans la création. Puis on continue avec un degré sur la santé, par exemple, je brûle les étapes. Il y a un degré sur cette dimension psychique de l'être, sur la force de la pensée aussi. Et puis sur les plans suprahumains. Et donc, ce qui est le challenge un petit peu du mystique, c'est de développer sa compréhension et de vivre sa vie en fonction de cette compréhension.
Mais d'arriver à le faire, parce que derrière, on a pas mal de choses dans la société, dans notre vie quotidienne, qui nous empêchent un petit peu de rester sur une voie comme ça. De dire,
si vous avez eu l'occasion de faire de la peinture chez vous et que vous avez voulu, par exemple, repeindre un mur d'une couleur saumonée, eh bien, vous avez pris un grand bidon de 10 litres, peut-être, de couleur blanche, et puis un petit peu d'estrée, de jaune et de rouge, si je ne me trompe pas. Et puis, vous mélangez tout ça, et puis vous avez votre grand bidon blanc qui devient une couleur saumonée. Et donc, je pense que dans la société, il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup de mystiques pour transformer la société comme les petites gouttes d'estrée transforment le bidon de couleur blanche initiale.
Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que est-ce que c'est chacun pour soi, quelque part? On n'est pas dans du religieux, là, donc vous n'allez pas nous dire, avec les enseignements de la mort, que croyez ceci, croyez cela.
Non, je ne vais pas le faire. Oui, voilà. Au sein de l'ordre de la Rose-Croix.
Et donc, du coup, là, Dieu devient quelque chose de beaucoup plus personnel.
Oui. Alors d'abord, la devise de l'ordre de la Rose-Croix, c'est la plus large tolérance dans la plus stricte indépendance. Mmh. Ensuite, dès les premières monographies, il est demandé aux Écossiens d'être un vivant point d'interrogation. Donc de ne pas prendre pour argent comptant ce qui est proposé, mais de l'expérimenter et du coup de tirer ses conclusions. Et c'est là qu'on accède donc à la connaissance. Au-delà de tout ça, il y a une responsabilité que l'on a envers soi. C'est-à-dire que ce n'est pas à quelqu'un d'autre qu'on doit rendre des comptes. On peut tricher avec quelqu'un d'autre, on peut utiliser des mots qui sont ambigus ou on peut dire carrément des mensonges. Mais quand on est seul avec sa conscience, quand on réfléchit avant de s'endormir tout seul sur son oreiller, on ne peut pas tricher. On sait bien quelle est la réalité.
Sauf si on a inventé le diable. Et on se dit que c'est de sa faute, comme ça on est tranquille.
Oui, mais on...
Mais quand on va au fond de soi, on s'aperçoit que...
Vous serez bien d'accord avec moi qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas tout à fait objectif avec vous-même.
Oui, non, mais c'était justement pour parler de... Enfin, faire le parallèle avec ces fameuses idées de religion et tout. C'est vrai que quand on crée un méchant, c'est un peu facile.
Oui,
mais... Mais ça évite justement soi-même de se confronter à sa responsabilité ou à sa part dans...
Si on se met à la place du clergé, j'en ai pas envie, mais il n'empêche que c'est très très facile de dire le bien d'un côté, le mal de l'autre.
C'est pas que le clergé, même en politique, on se crée des ennemis, etc.
Mais bien sûr, c'est beaucoup plus difficile de faire une démonstration. C'est bien plus difficile d'être l'image que l'on va suivre, le modèle qu'on va devoir suivre. Et donc, trouver une responsabilité ailleurs, qu'on l'appelle le diable, qu'on l'appelle Lucifer, qu'on l'appelle...
Le communisme, etc.
Par exemple.
Ou le capitalisme, dans l'autre côté.
Oui, je pense que c'est une solution de facilité. Mmh. Tandis que...
Mais on tombe facilement, nous, les petits hommes, dans ce panneau.
Parce
qu'on voit des nations entières être contre quelque chose, ou des millions de personnes qui croient une religion à être contre ceci, ou croire
que... Je crois que c'est Malraux qui disait que le 21e siècle serait spirituel ou ne serait pas.
C'était pas le 20e ? C'était pas le 20e siècle
J'ai un doute, du coup, vous me faites douter. Si c'est le 20e, il
est passé.
C'est un petit peu passé. Ouais. Mais bon, ce que je voulais dire par là, c'est que je pense qu'il y a un clivage entre les religions, alors que on pourrait les comparer chacune au rayon d'un soleil, et chaque rayon est plus ou moins long, et chaque rayon inonde telle ou telle partie, telle ou telle civilisation, partie de la population, partie de la planète. Si on revient vers le centre de ces rayons, vers ce point de départ, on va retrouver le germe commun à toute forme de spiritualité. Et c'est là que se trouve, à mon avis, la solution pour le 21e siècle. C'est plus on va s'éloigner, plus on va se diviser, se disperser et puis se confronter les uns aux autres. Plus on va revenir vers le centre, plus on va retrouver ce qui était commun à tous les grands philosophes qui ont initié les courants religieux, qui s'appellent Moïse, qui s'appellent Abraham, qui s'appellent Bouddha, qui s'appellent Jésus, qui s'appellent
Mahomet, bien sûr. Et ils se sont tous retrouvés confrontés à un peuple, entre guillemets, qui ne comprenait pas grand-chose ou qui agissait de travers, que ce soit le veau d'or, la crucifixion, puisqu'on le crucifie finalement, le Messie.
Oui, mais on est bien d'accord là-dessus. On suit la logique du monde temporel. Et donc, c'est normal qu'il y ait ce parallélisme entre tous les courants religieux. Pour le dépasser, il faut rejoindre la dimension philosophique qui elle, transcende donc ces contingences matérielles.
Alors, vous avez raison, c'est le 21e siècle. Hein, sera spirituel ou ne sera pas, André Malraux. Voilà.
Ça va, vous trichez, vous avez l'ordinateur devant vous.
Ça nous aide un petit peu, les moteurs de recherche. C'est de façon à ce que pour nos éditeurs, on est quand même la bonne
information. Mmh. C'est bien.
Oui, puis c'est un peu mon rôle quand même
d'utiliser
ces petits outils. Ça ne va pas être évident quand même. Hein.
Mais,
parce qu'il faut qu'on soit unis tout en étant indépendants.
Mais c'est interactif tout ça. C'est
sans être égoïste.
Je pense que des problèmes comme celui que l'on vit à l'heure actuelle au niveau mondial, je pense au Covid ou à la Covid, je pense que ça peut être un moyen de prendre conscience qu'on est tous dans la même barque, on est tous sur le même bateau. Et c'est peut-être le moyen de prendre conscience que les rivalités qu'il peut y avoir entre certains pays... C'est quelque chose qui va obligatoirement passer d'une façon ou d'une autre. On a déjà créé avec plus ou moins de succès, l'Union européenne, mais il y a l'Union des États arabes, il y a l'Union des États africains, etc. Il y a de nombreuses communautés d'États qui existent. Mmh. Et il y a 200 ans, les frontières, c'était chaque province.
Oui, c'est vrai. Alors, bon, c'est vrai donc, qu'on n'a pas trop ce recul, des fois.
Quand on regarde ce qu'on fait avec Internet, aujourd'hui, une exaction qui a lieu à Hong Kong, toute la planète le sait dans les minutes qui suivent. Donc je crois qu'inéluctablement, le courant de la mondialisation, au sens bien compris du terme, hein, parce que évidemment là aussi, il y a des débordements négatifs, mais je pense que c'est un courant inéluctable dont on a des preuves tous les jours. Est-ce qu'on veut les regarder ? Ça, c'est autre chose.
C'est comme tout, il y a du positif, il y a du négatif. À nous de prendre la bonne part ou de rester au milieu, dans l'équilibre, pour que ça tienne la route.
Si on veut être optimiste, et puis je tiens absolument à l'être, et en tout cas à faire passer ce message optimiste, je pense qu'on est... On est un peu à une croisée des chemins, et il me semble que l'humanité tout entière devrait être comme un corps humain. C'est-à-dire que chaque organe du corps humain a une certaine autonomie, une certaine indépendance. C'est-à-dire que les poumons gèrent le phénomène respiratoire, le cœur, les rythmes cardiaques avec tout ce qui s'ensuit derrière, l'estomac et j'en passe. Mais tous ces rôles sont à la fois autonomes et indissociables les uns des autres.
Ce qu'on appelle les super-organismes, c'est ça ? Un peu comme les ruches ou comme les fourmis. Hein.
On pourrait peut-être faire cette comparaison, mais...
C'est un peu ça, de toute façon, quand on voit une société, il y en a, chacun est à son rôle, et quand ça fonctionne bien, c'est que chaque rôle est bien rempli. Quoi.
Je suis sûr que vous ne pensez pas, 90% de votre temps, vous ne pensez pas à votre petit orteil. Mais le jour où vous avez une épine dans le petit orteil, vous vous rendez compte qu'il a une place...
Ça dépend s'il fait mal ou pas.
Voilà. Et donc, à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il a une place très importante. Et donc, je crois que l'avenir de l'humanité, c'est cette compréhension du rôle de chacun, avec une autonomie relative... mais la conscience d'une interdépendance de tous.
Bien. Ça fera la conclusion, peut-être.
Ah ben, c'est pas mal. Comme vous voulez, on a dit que c'était un sujet très vaste.
Oui, c'est très vaste, mais vous savez qu'on a toujours un temps quand même à partie. On peut malheureusement pas parler 2 heures ou 3 heures sur le même sujet. Ou alors, il faudrait peut-être plusieurs conférenciers avec vous. On ferait une énorme émission de 6 heures.
Écoutez, la on peut organiser.
Dieu, la morgue et nous, pourquoi pas. Mais en tous les cas, la morgue, ça se passe comment ? C'est pas évident, là, en ce moment, pour faire des réunions, tout ça, c'est suspendu. Je crois qu'il y a des portes ouvertes, non ? C'est ça, des journées comme ça avec...
Il y a des permanences
d'Avignon dans la rue Buffon.
Voilà, c'est ça, rue Buffon, il y a un organisme avec des permanences. Mais si vous voulez, le gros avantage de l'ordre de la Rose-Croix, on l'a dit un petit peu tout à l'heure déjà, on pourrait citer aussi l'ordre martiniste traditionnel, c'est d'avoir un véritable enseignement. Et cet enseignement est proposé sous forme écrite, on appelle ça des monographies qui sont envoyées tous les mois aux membres. Et donc, le contexte actuel ne permet peut-être pas de se réunir comme on voudrait, parce que les rituels ont leur importance, aussi bien dans l'ordre de la Rose-Croix que dans d'autres mouvements, mais il n'empêche qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations, et je veux dire qu'il n'y en a pas, à part les deux que je viens de citer, l'ordre de la Rose-Croix et l'ordre martiniste traditionnel, il n'y en a pas qui ait un enseignement, et cet enseignement... perdure, il n'y a pas de problème du moment que la poste vous achemine les monographies chez vous, du moment que vous pouvez vous connecter à Internet si vous vous êtes inscrit à l'ordre, dans l'ordre via Internet, dans les deux cas, vous recevez l'enseignement chez vous et vous pouvez continuer non seulement à apprendre, mais aussi à mener des expériences dans ce qu'on appelle un sanctum.
Et puis vous avez quelqu'un qu'on peut appeler ou on peut discuter aussi. Important quand même de temps en temps. Non, mais quand on reçoit ces enseignements chez soi, qu'on est membre de la mort.
Dans les organismes, il y a ce qu'on appelle des forums de degré. Donc tous ceux qui participent aux activités donc des loges, chapitres ou pranaoi, donc ce sont trois types d'organisations différents. Et des degrés d'organisation des temples.
D'accord.
Bon, donc il y a des forums de degrés, et là, il est possible de débattre sur ce que l'on a appris.
C'est important aussi.
Oui, bien sûr,
c'est important. C'est comme on fait nous, là. C'est vrai que peut-être ça mène à rien, mais en tous les cas, ça nous enrichit, ça nous permet de faire évoluer notre pensée.
Mais en plus, comme il y a des expériences à faire, il y a certaines expériences qui sont faciles pour les uns, plus compliquées pour d'autres, et pouvoir se retrouver à plusieurs pour en parler et mener ensemble des expériences en commun, c'est aussi très important et très utile.
C'est essentiel. Alors, dans la rue Buffon, Avignon, à l'antenne de la morgue régionale, départementale, il y a une réunion tous les deuxième samedi du mois. Voilà. Et on a un numéro de téléphone, si vous voulez vous renseigner ou prendre le rendez-vous, enfin savoir si elle a lieu ou pas en fonction de la situation sanitaire, vous pouvez appeler le 06 07 10 98 10 06 07 10 98 10 pour nos amis qui regardent la vidéo. On vous mettra le numéro de téléphone dans le commentaire de la vidéo.
On peut rajouter qu'il y a un site internet, il y a aussi un blog du grand maître de l'ordre de la Rose-Croix, et donc Serge Toussaint. Et donc ce sont des éléments qui sont très, très intéressants et très enrichissants.
D'accord. Alors Rose-Croix, je ne me rappelle plus le... Je me rappelle, vous m'avez bloqué là. Attendez, je vais appuyer sur mon truc. C'est rose-croix.org. Voilà. Oui, ça sert le moteur de recherche, finalement. Oui, www.rose-croix.org. Vous avez la page d'accueil, hein, la morgue, et puis il y a les enseignements qui sont expliqués, comment ça fonctionne. Et puis ça n'engage à rien, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte, attention, il faut bien quand même le rappeler. Voilà.
Le jour où vous ne payez plus votre cotisation, vous n'êtes plus membre, c'est très facile.
Voilà, puis on ne vous demande pas ni 20, ni 10, ni 0% de votre salaire, c'est juste une cotisation.
Je vois que vous êtes bien renseigné.
Ah bah, j'évite de faire parler les sectes quand même. Non, mais c'est vrai qu'avant qu'on commence les émissions, je me suis quand même beaucoup renseigné. Je vous ai beaucoup demandé hein, pour qu'on évite quand même toute erreur de jugement. Mais là, franchement, ça va. Puis en plus, on avance. Il y a des enseignements assez intéressants. La dernière fois aussi avec le docteur Brahim Sassi, c'était très très intéressant sur la santé. On en a justement reparlé aujourd'hui en parlant de théâtre, voyez. Ben, ça n'a aucun rapport, quoi, mais ouais. Comme quoi finalement les idées, les enseignements se rejoignent.
Mais je pense qu'il reviendra vous parler de ses connaissances dans ce domaine.
Oui, sur l'histoire de la guérison, ouais, l'aspect mystique justement, ou l'ésotérique de la guérison, c'était très intéressant. Philippe Sicard, merci beaucoup.
Merci à vous.
Portez-vous bien, prenez soin de vous.
Ben,
faites attention.
Je vous souhaite la même chose.
Et puis, dès que vous avez une nouvelle de Dieu, vous me rappelez. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Mais franchement, je suis désolé pour les auditeurs, mais on ne peut pas parler 6 heures, ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez appeler la morgue hein, et essayer d'avoir d'autres interlocuteurs ou d'autres enseignements tout sur ce thème-là. Je rappelle que c'est le 06 07 10 98 10 et que c'est tous les deuxièmes samedis du mois qu'une réunion est proposée à l'antenne de la morgue à Avignon, dans la rue Buffon. Merci voilà. Philippe Sicard.
Merci à vous. Au revoir.